Chapitre 2. Au contraire de sa cousine, Luz aimait la campagne. Toujours intelligemment occupée, s'intéressant à mille choses qui laissaient Claire indifférente, elle ne s'y ennuyait jamais. Aussi la perspective de séjourner tout l'hiver aux Trois Chênes lui eût-elle paru fort agréable si elle y avait trouvé plus de sympathie que ne lui en accordaient Madame Cibreux et sa fille. Le charme de Luz, sa gaieté, sa vive intelligence, lui valaient l'accueil le plus empressé chez les relations de ces dames. Dès qu'elle était dans quelque salon, elle attirait tous les regards. Les vieilles gens, pour qui elle se montrait gentiment respectueuse et serviable, chantaient ses louanges. Les jeunes la déclaraient la plus délicieuse créature du monde. Il n'en fallait pas tant pour exciter la jalousie de Claire, déjà éveillée par la seule vue de cette trop jolie cousine, lorsque Luz lui était apparue, descendant du train à la petite gare de Pelquat. Elle la laissait transparaître par des mots, par des regards, les uns et les autres teintés de malveillance et qui semblaient à Luz fort désagréables. Vers la fin de novembre, parvinrent aux Trois Chênes, par la voix des journaux, les échos du triomphal succès qui accueillait la nouvelle œuvre d'O.L. de Pendegui. Toute la critique se montrait unanime dans l'admiration. Cette fois, c'était la gloire pour le jeune poète, comme le répétait joyeusement Madame Muzen à Claire et à Luz, qui la saluaient au sortir de la messe du dimanche. Claire demanda « Le verrons-nous bientôt, ici ?»« Mais oui, je pense. Il est en ce moment chez un ami en Angleterre. » C'est là que la nouvelle de son succès a été le trouver. Une revue que recevait Madame Cibreux donnait, avec le compte rendu de la pièce, des extraits que Luz ne se lassa pas de relire les jours suivants. Elle admirait ce vers sobre, puissant, aux sonorités superbes, et qui savait cependant se plier à l'expression des sentiments les plus tendres, les plus délicats. Son désir d'entendre l'œuvre tout entière augmentait à chacune de ses lectures. Mais elle savait que, bientôt, elle pourrait le satisfaire. Madame Cibreux se préparait à partir pour Paris avec sa fille et sa nièce. Elles y resteraient une quinzaine de jours et l'une de leurs premières sorties du soir serait pour se rendre à la Porte Saint-Martin où l'on jouait Gwenola. Avant son départ, Luz alla voir le recteur. Celui-ci lui apprit qu'il se rendrait aussi prochainement à Paris pour entendre l'œuvre d'O.L. « Le cher enfant m'a envoyé une grosse somme pour mon voyage et mon séjour là-bas. Il voulait que j'assiste à la première. Mais impossible de m'absenter à ce moment-là. D'ailleurs, j'aime mieux y aller maintenant. Il va passer quelques jours à Paris avant de venir ici et je l'y retrouverai. » Ces 15 jours furent fort occupés pour les dames Cibreux. Elles avaient à Paris des cousins, des amis qui les invitèrent à des réunions, des thés, des dîners. Puis il fallait compter avec les nombreuses courses dans les magasins, sans parler des distractions diverses dont elles entendaient profiter largement pendant ce séjour. Claire se montrait infatigable et sa mère suivait le mouvement. Mais Luz, parfois, s'abstenait de les accompagner. Ses goûts étaient plus intellectuels, plus délicats. Une longue station dans un musée, l'audition de quelques chefs-d'œuvre du théâtre ou de la musique, une promenade à Versailles ou à Fontainebleau, lui aurait paru plaisir fort supérieur à ceux, très frivoles, dont rêvait sa cousine. Elle avait entendu l'œuvre d'O.L. de Pendegui et son âme demeurait toute frémissante de la tragique et ardente beauté dont le drame était imprégné en toutes ses parties. Comme elle comprenait le succès qu'il avait accueilli, qui semblait croître encore à mesure que se donnaient des représentations nouvelles. Oui, O.L. était un grand poète, et si jeune encore, cependant. Maintenant, la gloire et la fortune lui étaient acquises. « Quel vénard !» disait Albert. À quoi Luz ripostait ? « Tu n'aurais pourtant pas changé ton sort pour le sien autrefois. Mais c'est un travailleur, une nature énergique et persévérante. Même s'il n'avait eu ce don superbe, il serait arrivé à quelque chose. » Elle avait de fréquentes escarmouches avec son cousin, dont la suffisance et le snobisme l'horripilaient. Et encore, retenait-elle les mots d'ironie qui lui montaient aux lèvres pour ne pas contrarier sa tante, celle-ci considérant comme parfait tout ce qui venait de ses enfants. Vers le 12 décembre, Madame Cibreux et les jeunes filles réintégrèrent les Trois Chênes. Un soleil pâle se glissait entre les nuages floconneux lorsque Luce s'éveilla le lendemain, très reposée du voyage. Il était tard et elle ne pouvait songer à se rendre à la messe comme elle en avait coutume. Mais elle voulut se donner le plaisir d'une promenade avant le déjeuner pour secouer un reste d'engourdissement. Aussitôt habillée, elle sortit, laissant Claire paresseusement étendue dans un fauteuil et occupée à regretter Paris. D'un pas alerte, Luce s'en alla à travers la campagne. Un air vif, un peu humide encore, la frappait au visage et soulevait ses cheveux noirs qui bouclaient toujours, comme naguère. Elle longeait la lande par le sentier que suivait autrefois Hoël, le jour où deux petites filles insoumises s'en étaient allées vers l'étang. Aujourd'hui encore, Luce se dirigeait de ce côté. La nappe d'eau lui apparut d'un beau vert profond et frémissant. Sur l'herbe de ses berges scintillaient les gouttes d'une pluie nocturne et les grangeons se courbaient au souffle du vent qui s'élevait. Luce pensa « Si Hoël ne m'avait sauvée, je serais morte là !» Et comme elle avait 20 ans, comme elle trouvait la vie belle, un petit frisson la secoua. Elle reprit sans hâte le chemin du retour, un chemin qui n'était pas le plus direct, car il faisait passer par Kerlozo. Mais elle aimait traverser le bois de vieux chênes, par lequel on passait en venant de l'étang, pour monter au château. Et tout autour de celui-ci, l'air était plus vif, tout parfumé d'arômes sylvestres que Luce aspirait avec délice. Toujours sombre et silencieuse, la vieille demeure apparut bientôt aux yeux de la jeune fille. En s'en approchant, elle constata que la porte au-delà du pont était ouverte. Par le recteur, elle savait que Lemeur, le sacristain, était chargé d'y faire une ronde de temps à autre, d'ouvrir quelques fenêtres, de secouer un peu la poussière. Sans doute était-ce lui qui s'y trouvait aujourd'hui. Luce songea. « Cela me ferait plaisir de revoir cette vieille cour, ce puits curieux. » Elle s'approcha, franchit le pont et se trouva dans la cour. Le puits était toujours là, avec sa margelle ruinée, verte de mousse et sa belle ferronnerie. À gauche, la porte, définitivement arrachée de ses gonds, gisait sur les pierres disjointes de la cour. Les marches conduisant à l'entrée principale apparaissaient, brisées par l'usure, couvertes de mousse. Les volets, clos sur les fenêtres, n'avaient plus de nuances définissables et leurs ferrures rouillées semblaient arriver au dernier degré de résistance. L'impression de ruine, d'abandon grandiose et mélancolique qui avait naguère à peine effleuré l'esprit de l'enfant, s'imposa à celui de la jeune fille. Elle comprit, mieux qu'elle ne l'avait fait jusqu'ici, la souffrance des races déchues. Cette demeure lui apparut comme l'image même de la ruine lente des Pindegui, la vieille famille bretonne, puissante et fière autrefois et destinée à finir dans la pauvreté si son dernier jeton n'avait reçu du ciel le don merveilleux. Tout en songeant, Luce tenait son regard machinalement fixé sur l'ouverture sombre que découpait l'entrée au-delà des marches. Car les deux vantaux de la porte étaient ouverts sur le vestibule obscur. La jeune fille eut un sursaut en voyant s'élancer de cette ombre un lévrier gris, souple et mince, qui laissa échapper à sa vue un aboiement. Derrière lui, une voix jeune et impérative appela « Ici, Kenok !» Kenok. Aussitôt, Luce revit le vieux chien jaune, pelé, avec qui Hoël partageait sa pitance. Et puis, une vive rougeur monta à son teint ambré. Au seuil du château apparaissait un élégant et svelte jeune homme, blond, au visage à la fois fin et viril, que des yeux ardents et songeurs éclairaient d'une lumière discrète. Pendant quelques secondes, il s'arrêta sur la marche moussue et regarda Luce. Puis, il descendit d'un pas souple les autres degrés et s'approcha de la jeune fille, un sourire aux lèvres. « Je ne me trompe pas, vous êtes bien, mademoiselle, la petite Luce, autrefois si charmante pour le pauvre garçon que j'étais. Et vous, monsieur, vous êtes Hoël de Pindegui ? En personne, m'auriez-vous reconnu ? Oh oui, vos yeux surtout. Et les vôtres, comme ils n'ont pas changé, j'y retrouve la même expression. Oui, vraiment, au milieu de la plus nombreuse réunion, je ne me serais pas trompé. J'aurais dit aussitôt, voilà celle qui fut la petite Luce, celle à qui je garde un souvenir si reconnaissant. Ah, monsieur, est-ce à vous de parler de reconnaissance? Je viens précisément de l'étang et j'ai pensé là-bas à ce que je vous devais. Ce que vous m'avez donné vaut encore bien davantage. Grâce à votre enfantine charité, je n'ai pas conservé un souvenir trop amer de ce temps où, si souvent, l'on m'humiliait parce que j'étais pauvre. Toujours, devant ces réminiscences, s'est placée l'image d'une délicieuse petite fille qui m'appelait son amie et qui ne rougissait pas de moi devant ses cousins. Elle rougissait bien, en tout cas maintenant, la jolie Luse. Ses yeux se baissaient sous le regard d'Oël, très ému, et qui laissait voir une admiration discrète. Le lévrier vint en aide à son embarras. Il s'approchait d'elle et frôlait sa robe de son long museau. Les doigts de la jeune fille caressèrent la tête fine. « Vous l'avez appelé Kenok, comme l'autre ? Vous vous souvenez ? Oh, je crois bien ! Votre oncle voulait le faire tuer, mais vous aviez demandé de partager avec lui vos repas. » « Oui, pauvre Kenok, il n'était pas toujours agréable, mais moi, il m'aimait bien. Sa mort m'a chagriné pendant quelque temps. » Un court silence passa, puis Luce dit avec un sourire « Il faut que je m'excuse, monsieur, d'être entré ainsi. J'ai vu la porte ouverte et, ignorant votre arrivée, j'ai cru que le meurt... »« Vous avez très bien fait, mademoiselle. Il m'est beaucoup plus agréable de vous revoir ici, où vous avez été si bonne pour moi qu'au hasard d'une rencontre banale. Oui, je suis à Pelkoan depuis hier soir. Notre bon recteur, mon meilleur ami, m'accorde l'hospitalité jusqu'à ce que Kerlozo soit habitable. » « Vous le faites restaurer complètement, m'a-t-on dit ?»« En effet, pauvre Kerlozo, en a-t-il besoin ?» Son regard enveloppa les vieux bâtiments, erra un instant sur l'enceinte croulante. « Vous réalisez ainsi votre désir. Rebâtir Kerlozo était un des buts que vous proposiez à votre travail, je m'en souviens. » Les yeux verts et profonds se reportèrent sur le charmant visage, ému et si délicatement rosé. Oui, et je l'ai atteint. Par une voix magnifique, j'ai vu jouer Gwenola pendant notre séjour à Paris. Comment vous exprimer ce que j'ai ressenti? Venant après tant d'illustres suffrages, mon opinion, tout enthousiaste qu'elle fût, vous paraîtrait d'ailleurs bien modeste. Détrompez-vous, mademoiselle. Ainsi, ma Gwenola vous a plu? Oh, à quel point! Vos vers font frémir les fibres les plus secrètes et éveillent en nous des impressions si hautes. Certes, ils voient juste ceux qui prédisent que vous serez le plus grand poète de notre génération. Les beaux yeux noirs étincelaient d'enthousiasme. Oël la remercia d'une voix chaude. Puis, faisant quelques pas, il désigna le vieux puits. « Vous souvenez-vous qu'ici, je vous ai lu des vers, le jour où vous êtes venu me voir ?» Elle inclina affirmativement la tête. Tous deux souriaient, émus et discrètement gais. « Et je vous ai montré le château. Devant les oubliettes, vous vous êtes indigné de la cruauté de mes ancêtres. » « Oui, je me rappelle tout cela. Cette visite avait frappé mon imagination d'enfant. » Ces vieux souvenirs du passé subsisteront-ils en dépit de la restauration? Certes, je surveillerai de très près l'architecte pour qu'il ne me dénature pas mon vieux Kerlozo. En ce cas, vous resterez quelque temps à Pelkoat? C'est probable, je me contenterai de courts séjours à Paris. Ainsi, mademoiselle, j'espère avoir le très grand plaisir de vous rencontrer encore, probablement chez monsieur le recteur. Luce répondit avec sa spontanéité habituelle « Mais je l'espère bien aussi, monsieur !» Après quoi, elle prit congé du jeune homme qui l'accompagna jusqu'au-delà du pont. Elle regagna les trois chaînes toutes joyeuses. Enfin, elle l'avait revue, cette Oël dont le nom était aujourd'hui célèbre. Comme sous la correction élégante de la tenue, sous les manières d'homme du monde, elle le retrouvait semblable à autrefois. Albert disait qu'on l'encensait, qu'on l'adulait partout où il passait. Cependant, il avait semblé à Luce dépourvu de toute fatuité, à la fois très simple et d'une distinction très patricienne. Ses yeux conservaient l'expression ardente et songeuse qui existait dans ceux du petit Oël, et son sourire était discret, un peu lointain, comme autrefois aussi. Jeune homme, il devait être resté semblable à l'enfant fier, méditatif, dont l'âme ne s'ouvrait que devant la sympathie affectueuse. Mais comme elle aimait son regard, il s'en dégageait un charme profond dont elle se sentait encore toute pénétrée en arrivant aux Trois Chênes. Madame Cibreux et Claire s'occupaient à défaire des malles dans leur chambre contiguë. Voyant les portes ouvertes, Luz, au passage, leur annonça « Monsieur de Pendegui est arrivé !» Claire s'écria « Ah, vraiment ? Comment l'as-tu appris ?»« Parce que je viens de le voir dans la cour de Kerlozo, où, ignorant sa présence, j'étais entrée pour donner un coup d'œil aux ruines. »« Comment est-il ? Que t'a-t-il dit ?»« Mais il est très bien, et il s'est montré fort aimable. Tu sais que nous étions très amis autrefois ?» Elle souriait avec une ironie légère. « Il faudra que nous entrions en relation avec lui, n'est-ce pas, maman ? Par le recteur, ce sera facile. » Madame Cibreux approuva avec empressement. « Sans doute, nous lui devons d'ailleurs nos félicitations. Il devient la gloire du pays, ce jeune homme. Et puis, sa famille est si ancienne. Les Pendegui ont été pendant longtemps de hauts personnages. Après une éclipse, leur nom reprend du relief. Marquis de Pendegui. O.L. de Pendegui. C'est un très beau nom. » Et Claire, tout à coup joyeuse, se remit à défaire sa malle en chantonnant.